Voilà, donc bonjour. Notre intervention se situe donc sur la question qui a été posée à l'instant, sur les critères et les enjeux d'abonnement aux ressources numériques. Nous allons essayer de faire le point sur toutes les questions que nous nous posons quand il s'agit de sélectionner une ressource numérique et en particulier dans le domaine de l'auto-formation. Voilà, donc nous allons commencer par vous présenter le petit groupe auto-formation qui travaille au sein de Réseau Carel. Ce groupe auto-formation est né l'année dernière, en 2018, et il est constitué de 4 personnes qui sont Valérie Drosson, une collègue qui est dans la salle ici, tout au bout. Retournez-vous, elle est là, derrière, elle lève la main. Oui, avec un train Chambéry-Paris, il y a souvent des retards. Je vais de gauche à droite, pardon, c'est pas très poli, mais Marianne, donc moi-même, et que Hélène a nommé super boss. J'étais pas très contente quand j'ai vu ça, mais j'essaye de coordonner ce groupe de travail. Farida qui travaille à la BPI, et puis donc Hélène. Ce groupe auto-formation s'est rencontré une fois l'année dernière pour une journée de travail ici à la BPI, et nous avons appris à nous connaître et nous avons débroussaillé beaucoup, beaucoup de choses que je vais vous présenter après, dans les raisons de fonctionner, les objectifs de ce groupe de travail, voilà, et son fonctionnement. Alors, que fait ce groupe de travail au sein de Réseau Carel? Vous avez vu Emmanuel qui vous a présenté son travail, qui est donc en relation directe avec les éditeurs, et qui interpelle les éditeurs, parce qu'elle a connaissance ou à la demande de bibliothécaires, ou alors elle est elle-même interpellée par les éditeurs qui souhaitent rentrer dans le catalogue de Carel. Dans ces cas-là, une fiche et un formulaire, un questionnaire est présenté aux éditeurs qui leur permet de présenter leurs ressources, qui ils sont, et voilà, de présenter leurs ressources. Une fois cette fiche remplie, Emmanuel interpelle le groupe auto-formation en disant, ben voilà, on a une nouvelle demande où il y a une nouvelle ressource sur le marché, il faut la tester. Elle nous transmet des identifiants et mots de passe de façon à ce qu'on puisse tester cette ressource. Alors le petit groupe, je redis que nous sommes un petit groupe, vous voyez, ce petit groupe teste chacun dans sa bibliothèque la ressource et fait un rendu échange par mail, ou c'est souvent par mail, sur ces analyses, et fait un rendu de cette analyse. Ensuite, cette analyse est présentée et soumise au bureau de Réseau Carel, qui valide ou pas l'entrée de la ressource dans le catalogue Carel sur la base des analyses du groupe auto-formation, et puis également bien évidemment que le groupe, et heureusement que le groupe auto-formation qui examine ces ressources. Il y a aussi l'ensemble des bibliothécaires, les échanges qu'il peut y avoir entre nous, les membres du bureau, les membres du CA, les collègues de la BPI, etc. Tout ça pour, à la fin, voir cette ressource référencée dans le catalogue ou pas. Et le ou pas, il y a bien évidemment des retours qui sont faits à l'éditeur par Emmanuel, en signifiant là où les points améliorés, les évolutions souhaitées par les bibliothécaires pour que la ressource puisse être référencée au catalogue. Alors, voilà, ça c'est le circuit. Nous nous appuyons sur des outils qui sont les suivants. plus simple. Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'un formulaire qui est adressé aux éditeurs, que les éditeurs remplissent, un formulaire, un questionnaire. Je ne vais, bien évidemment, ce serait trop fastidieux, je ne vais pas m'arrêter sur les points de ce formulaire, mais sachez donc que c'est un formulaire de plusieurs pages qui comprend différents chapitres, qui sont la fiche descriptive de la ressource, des questions sur le contenu. Par exemple, y a-t-il des contenus libres d'accès? Quelle différence avec l'offre payante? Quel est le public cible? Voilà, des questions sur les formats utilisés, les spécificités techniques. Toujours sur le contenu, les questions sur l'interactivité, la bibliographie, l'évaluation, des évaluations possibles, etc. Et nous avons travaillé à partir d'une liste qui était utilisée déjà par les collègues et par la négociatrice de Réseau Carrel. Et au cours de cette journée de travail, nous avons complété cette liste sur des questions touchant à l'auto-formation. Donc quand Emmanuel parlait de personnalisation du parcours, ce sont ce type de questions que nous avons formulées de façon à ce que l'éditeur puisse répondre et guide après nous, en fonction des réponses, notre analyse et le test de ces ressources. Voilà, je ne vais pas m'apesantir sur cette fiche, mais sachez que le travail est là et que cette fiche reprend l'ensemble des critères des critères qui permettent d'analyser une ressource. À partir de cette fiche et à la suite et combiné avec notre propre test de la ressource, nous avons établi un tableau qui reprend l'ensemble des chapitres. Vous voyez ici, par exemple, thématique couverte, qui nous permet, dans la case d'à côté, dans la colonne d'à côté, faire un rendu, de restituer le résultat de notre test, et qui permet à la fin de ce tableau d'avoir une analyse assez globale et assez précise de la qualité de la ressource. Il y a trois pages, ça permet vraiment d'avoir une analyse globale assez rapide de la ressource, de souligner les points positifs, tels que Emmanuel a pu aussi vous les résumer dans la présentation de chaque ressource, et puis de mettre en évidence les points à améliorer, ou les lacunes, ou les gros défauts. Voilà, pour ce qui est du travail, de ce travail, je souhaite juste souligner que c'est une chance, c'est vraiment un travail extrêmement intéressant de pouvoir faire ce travail ensemble, d'abord de pouvoir tester chaque ressource. Alors ça demande de la disponibilité, mais c'est aussi un gain de temps, enfin, ça permet d'avoir une vue globale de l'offre dans le domaine de l'auto-formation. Et qui dit vue globale, c'est bien sûr le contraire d'une vue parcellaire, c'est-à-dire que quand il s'agit après de sélectionner une ou deux ressources en fonction de son budget pour la bibliothèque dans laquelle on travaille, eh bien, on est déjà nettement plus à l'aise pour ces raisons.
Oui, tout à fait. J'abonde dans ce sens-là. C'est l'occasion de vraiment faire un pas de côté par rapport à aux ressources numériques qui sont présentes dans sa bibliothèque, notamment aux ressources d'auto-formation, de prendre un peu de recul et de monter en connaissance, en compétence sur cette thématique. Alors, le diaporama, donc en fait, à partir de ces outils, on a essayé de dégager des grands critères, enfin d'organiser, de proposer une typologie en fait des enjeux et des critères d'évaluation que nous on retenait pour analyser les différentes ressources. Donc la première famille d'enjeux qu'on va examiner, c'est la qualité, touche aux enjeux documentaires. On va se poser la question de la qualité documentaire des contenus. Est-ce qu'on a une information complète? Est-ce qu'on a une information juste? Comment est-ce que ces contenus sont structurés? Est-ce qu'ils sont structurés? Est-ce qu'on a une information sourcée? Est-ce qu'on a une information sur les mentions de responsabilité? Et également, ce qu'on a rarement, mais on essaie de trouver, d'avoir des informations sur la politique éditoriale de la ressource qui est proposée. Ensuite, bien sûr, par rapport à ces enjeux documentaires, la question de la fraîcheur de l'information, est-ce que le site évolue, est-ce que les contenus sont mis à jour ou bien est-ce qu'on a un site statique et peu d'évolution. Et enfin, dans les enjeux documentaires, il y a aussi la question de la façon dont les contenus sont traités ou bien de l'originalité de la proposition. Voilà, est-ce qu'on a un angle de traitement des contenus qui est à mettre en avant, qui sort de l'ordinaire.
Alors, les enjeux pédagogiques, à la suite, donc, qui découlent bien évidemment de la clarté du contenu, mais cette clarté du contenu, elle est absolument essentielle quand il s'agit d'une ressource numérique, à savoir quand nous adressons le plus souvent à des personnes qui vont utiliser cette ressource de façon autonome. L'auto-formation, c'est bien apprendre de façon autonome, et il faut, nous semble-t-il, pour cela que le contenu proposé par la ressource soit clair, assez vite perceptible. Le lecteur ou l'abonné doit assez vite comprendre quelle matière, quelles disciplines sont couvertes par la ressource, quels niveaux lui sont proposés et à partir des niveaux, quelle progressivité il est possible d'envisager. Toujours dans les critères, en auto-formation, il s'agit du suivi personnalisé. Est-ce que ceci est possible? C'est-à-dire pouvoir reprendre le cours de son apprentissage, obtenir un rappel des difficultés rencontrées et une proposition de révision. Et puis, il peut exister avec des outils qui s'appuient sur l'envoi de mails, par exemple, ou l'abonnement à des fils RSS. La complémentarité des médias utilisés est importante, bien sûr, vidéo, texte, son. La vidéo permet l'immersion pour une langue, on l'a vu, permet la démonstration et le pas à pas pour une technique, c'est par exemple le cas de vos déclics. Il faut que l'ensemble soit clairement structuré entre la leçon, les exercices et les réponses. La présence de boîtes à outils est intéressante. Avec des supports référents de type glossaire, vocabulaire, des supports textuels sur lesquels l'apprenant va pouvoir s'appuyer. Quand le son et l'enregistrement existent, il faut vérifier la qualité du son et la possibilité de la qualité de l'enregistrement et le fait que ce soit accessible, facile. Et puis, bien sûr, donc, que tout cela soit enrobé, rendu possible par une navigation fluide et intuitive entre ces différents outils.
Alors, le champ des enjeux réglementaires et déontologiques, au premier rang desquels la question de l'accessibilité numérique. Donc là, je rappelle juste les quatre règles qu'on trouve dans le règlement général de l'amélioration de l'accessibilité. La question, le fait d'avoir un site perceptible, donc là c'est le fait de s'efforcer de rendre chaque information du site perceptible pour tout utilisateur et par tous les sens. Donc ça suppose de proposer des alternatives textuelles au contenu, de proposer de l'audio description, de proposer un vocabulaire simple. Le fait d'avoir un site utilisable, là c'est la notion de rendre accessible au clavier toutes les fonctionnalités du site, de proposer des outils de navigation pour se repérer dans le site, s'efforcer de rendre les contenus textuels compréhensibles et lisibles. Et puis la notion de robustesse touche aux questions de portabilité dans le futur et puis par rapport aux assistances numériques. Alors, je précise que c'est assez difficile, en fait, je présente les grands principes. C'est vrai qu'on s'efforce d'avoir un regard sur cette accessibilité. Tester, en fait, on manque de connaissances, tout simplement, on manque d'outils pour tester cette accessibilité, même si on utilise le validateur W3C et des petits outils qu'on peut avoir sur les navigateurs, on est assez vite limité. Enfin, on pourra en discuter si c'est une question qui vous tient à cœur. La question de la conformité au RGPD, donc là, ça suppose d'éplucher les conditions générales d'utilisation, de vérifier qu'on a des conditions générales d'utilisation qui sont propres, enfin prévues pour les bibliothèques, puisque ce n'est pas toujours le cas. Quelles sont les données personnelles qui vont être collectées? Est-ce qu'elles sont archivées? Quelles sont les données qui sont archivées? Où ces données sont-elles hébergées? Et les usagers ont-elles la possibilité d'exercer leur droit d'accès à ces données? La question, enfin, dans ces enjeux réglementaires et déontologiques de la neutralité, est-ce qu'elle est bien respectée, la neutralité, le principe de neutralité de contenu et de neutralité commerciale, et puis le principe de continuité de service, est-il rendu possible? Est-ce qu'on a de l'assistance avec cette ressource ou non? Autre famille d'enjeux, les enjeux techniques là, qui touchent plus, c'est plus la question de l'attractivité de la ressource. Est-ce qu'on va avoir une plateforme dont l'ergonomie sera de qualité? Est-ce qu'on aura une navigation suffisamment fluide? Quelle profondeur d'information aussi? Est-ce qu'on aura besoin de beaucoup cliquer pour accéder au contenu? Est-ce qu'on aura une profondeur? Est-ce que la règle des trois clics est bien respectée? Quelle lisibilité graphique est également estimée? Quel est le niveau d'interactivité de la ressource? Et parmi ces enjeux techniques, et évidemment toute la question de la possibilité d'interfaçage avec les portails, est-ce qu'on a des outils pour l'authentification unique? Est-ce qu'on a des connecteurs? Est-ce qu'on a des connecteurs pour la recherche fédérée? Est-ce qu'il existe des dispositifs relais? Et puis aussi, et c'est vraiment pas toujours le cas, est-ce qu'on dispose d'un back-office pour les bibliothèques pour qu'elles puissent être autonomes pour mesurer l'audience qu'il y a sur cette ressource?
Alors, les enjeux tarifaires. Vu des coûts des ressources payantes, ce sont des enjeux importants, au vu des coûts et des budgets des bibliothèques. Emmanuel parlait de lisibilité des tarifs. C'est un véritable enjeu. Tant les modèles tarifaires peuvent être variés. Alors, ils peuvent varier sur la base de ces différents critères qui sont un nombre d'accès illimité ou limité, et ce souvent par seuil, 3, 5, 10, 30, etc. Le nombre de consultations peut également être limité. C'est moins souvent, c'est moins le cas dans les ressources en auto-formation, mais ça peut exister. Il peut aussi y avoir un nombre de usagers ou d'abonnés, enfin d'usagers ou de lecteurs utilisant cette ressource, donc un nombre limité. La question de l'accès à distance ou sur place qui est en train de se résorber, je pense que maintenant c'est en train de se résorber, c'est-à-dire que quand on a un abonnement à une ressource, c'est sur place et à distance tout confondu. La graduation de l'offre, Emmanuel en parlait aussi, il peut y avoir des éditeurs qui ont une offre basique, puis une offre premium, et puis il peut y avoir aussi une troisième offre de luxe. De mémoire, je crois que c'est Vocable qui fait ça. Et puis ces fameux packs ou ces fameux bouquets qui peuvent contenir des ressources extrêmement intéressantes et puis d'autres moins. L'ensemble peut faire très fouillis et peut perturber aussi l'usager, hein, comme on l'a vu précédemment. Qui peut être perdu. Et puis sur le plan tarifaire, c'est la question de pouvoir opérer un panachage qui correspond à nos besoins de contenu et à notre budget. Voilà, il y a aussi la mise en place du connecteur qui est payant, qui peut être payant une fois, qui peut être tarifé annuellement, et en même temps, une fois que vous avez payé votre connecteur une année, même si vous n'avez pas à le repayer les années suivantes, il est sûr que dans la mesure où c'est un investissement, et pour le coup, on hésite à supprimer la ressource, à se désabonner l'année suivante, parce que on a effectué cet investissement. Voilà, tous ces critères peuvent être combinés les uns avec les autres, ce qui ne rend pas donc toujours le tarif lisible. Et puis il peut y avoir des éditeurs qui ont des offres tarifaires très lisibles, du type accès illimité pour un abonnement annuel de temps. Et là, on est très heureux parce qu'on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Toujours du côté tarif et budget, les ressources numériques font bien sûr partie d'une offre de collection globale. Une fois qu'on a la connaissance de l'ensemble de ces ressources, il faut bien sûr se poser la question de l'intégration dans cette offre pour obtenir d'abord dans l'offre numérique une offre cohérente qui réponde bien sûr aux besoins des usagers, qui donc ne soit pas hors de prix, qui soit pertinente pour qui, pourquoi, et qui s'intègre en termes de pertinence dans le projet de service de la bibliothèque, qui soit en phase ou en correspondance avec les animations, les actions de médiation. On parlait d'illettrisme, par exemple. Si vous travaillez dans une bibliothèque qui a un volet illettrisme important, ben vous allez choisir telle ressource plutôt qu'une autre. La complémentarité entre les supports se pose aussi, bien sûr, entre les supports, les collections matérielles de la bibliothèque et les collections numériques, bien veiller à cela. Et c'est aussi un travail important à faire avec l'ensemble des équipes, l'articulation n'est pas toujours facile. Nous apprenons à le faire progressivement en bibliothèque. Voilà. Et puis donc, on a parlé tout à l'heure de la complémentarité des ressources payantes et libres. Et oui, c'est un travail que nous souhaitons faire donc au sein de ce groupe auto-formation. Parce qu'il y a un travail de sélection à faire et il s'agit bien de complémentarité dans l'offre entre ces ressources payantes et libres. Il y a des petits bijoux dans l'offre libre, il y a des choses extrêmement intéressantes et des petits bijoux dans l'offre payante, et puis il y a des choses à écarter, et c'est tout ce travail qui a écarté de part et d'autre, et c'est tout ce travail qu'il est important de faire. Et donc avoir une vue globale sur l'ensemble de l'offre, c'est l'enjeu de notre travail en bibliothèque, c'est l'enjeu de la coopération. Et c'est l'enjeu donc de cette coopération au sein du réseau Carrel. Merci de votre attention. Donc je précise juste que cette petite équipe n'est absolument pas fermée, qu'elle se sent un peu petite, vous l'avez compris, et qu'il est possible de nous rejoindre. Nous avons une journée... Nous espérons mettre en place une journée de travail en présentiel par an à la BPI. Je dis nous espérons parce que nous sommes bien évidemment tous pris par nos fonctions, mais nous allons, ce travail, cette journée a été l'occasion aussi de nous ressouder, nous a boosté, et nous allons donc prolonger ce travail, cette coopération. Voilà, donc bienvenue dans le groupe auto-formation de Réseau Carrel, avec travail en présentiel et par mail, et ça se fait assez bien.
Et puis n'hésitez pas, si parmi les critères d'évaluation que, voilà, qu'on a essayé de présenter sous forme de typologie, il y a vraiment des choses qui vous paraissent manquer, n'hésitez pas à rebondir et à nous le dire.
Voilà, y a-t-il avec des questions plaisir. Ou des commentaires dans...
Chantal Sibylle, donc de la BPI. J'ouvre le bal des questions, ça vous permet de réfléchir aux vôtres. Alors, ce n'était pas vraiment une question, en fait, c'était, voilà, très bien, exactement. Très pour bien revenir bien. À ce schéma, c'était en fait peut-être pour souligner le fait que dans le processus, donc entre le premier contact avec l'éditeur, donc soit d'un membre du groupe, soit d'un bibliothécaire, soit directement l'éditeur contactant la négociatrice. Suite à ce premier contact, Emmanuel effectivement demande, grâce à une fiche de présentation, à l'éditeur de, voilà, de se présenter plus amplement, puis se retourne vers le groupe auto-formation qui va aller plus loin dans l'analyse, le test, l'utilisation de la base, et en fait retour. Et voilà, ce que je voulais souligner, c'est cette étape de négociation qui peut être plus ou moins longue selon les difficultés rencontrées, selon... on va dire la souplesse aussi de l'éditeur et son objectif derrière, selon la teneur bien sûr des retours du groupe, et bien sûr selon les propres commentaires de n'importe quel bibliothécaire qui les fera remonter. Donc je voulais souligner cette étape qui peut être plus ou moins longue. Je le dis parce que justement, comme après il y a encore d'autres étapes, notamment le passage au bureau Carrel, puis le référencement, donc là qui est la mise en ligne des différentes fiches, entre le début, donc en jaune, contact éditeur, et la fin du circuit, c'est un éternel recommencement, hein, c'est un cycle, mais il peut se passer plusieurs mois. Donc c'est la raison pour laquelle Marianne et Hélène, Fabien aussi tout à l'heure l'ont dit, c'est un work in process, donc vos commentaires, vos apports sont extrêmement importants, que ce soit pour le groupe auto-formation, pour la négociatrice Carrel, qui en a besoin notamment vraiment lors des négociations. Et donc ça c'était voilà, pour redire ces points-là, insister, j'avais peut-être une deuxième remarque ou question, ça dépend comment on peut aborder la chose, concernant, donc Marianne l'a redit à la fin, le travail que souhaite faire le groupe sur la complémentarité entre les ressources libres et les ressources onéreuses, enfin sous abonnement, qui sont négociées par Carrel. Alors il me semble qu'effectivement avoir une vue globale des ressources et bien connaître le domaine, quelque chose de fondamental pour pouvoir aborder les fonctionnalités que propose l'éditeur, le niveau de spécialité, la qualité, est-ce que c'est pas un vieux troublon effectivement raclé d'un fond de tiroir pour venir augmenter un fond, effectivement ça il faut pouvoir en rendre compte et s'en saisir. Après j'ai tendance à penser, et c'est souvent des discussions qui reviennent au sein de Carrel, hein, qui ne sont pas forcément ni closes, mais qui ont été maintes fois discutées. Les forces de travail actuelles de l'association et des personnes qui y participent font peut-être que on a peut-être plus intérêt à se consacrer aux ressources sous abonnement, ce qui effectivement ne dit pas qu'il faut négliger les ressources libres, parce qu'il y a cette fameuse complémentarité, mais en tout cas pour justement ce qui est attendu en termes de négociations et d'offres, de pouvoir tester, analyser, restituer. Et je le redis, ceci ne se fait pas sans cela. Mais voilà, c'est une question peut-être de force de travail. Voilà, donc ça, je le laisse aussi à vos réflexions, mais il me semble que c'est un point important aussi pour Réseau Carrel.
On va en parler encore, en fait, de cette hybridation entre gratuit, payant, dans la partie médiation des ressources d'auto-formation sur les portails. Donc la toute dernière intervention, donc ça sera l'occasion peut-être encore de rebondir.
Oui, bonjour, c'est pour appuyer le propos de Chantal. Donc Cécile Denier, responsable du service auto-formation à la BPI. Nous avons comme projet de travailler sur les ressources gratuites, non seulement bien sûr pour la BPI, mais pour le réseau Carrel et l'ensemble des bibliothèques qui seraient intéressées. Donc nous avons ce projet aussi de travailler sur les ressources gratuites. Donc je pense que nous pouvons travailler en complémentarité.
C'est super, oui. Mais c'est en fait, donc là je divulgage un peu la présentation de tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement de fond en bibliothèque. J'ai remarqué que cette problématique d'intégrer des contenus gratuits est désormais présente sur tous les... vraiment une majorité de portails que j'ai visités.
Donc, voilà, proposition de... voilà, de pour vous annoncer ce projet qui est, donc, en cours de constitution, notamment par Farida d'ailleurs, hein, qui fait partie de votre groupe de travail.
Ouais, il y a une question là.
Merci. Est-ce que vous avez retoqué une ressource ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'une ressource ne passe pas votre grille et que du coup, l'éditeur retoqué modifie sa proposition ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce que vous leur communiquez vos critères ? Est-ce qu'ils ont valeur de cahier des charges ?
Alors non, on ne communique pas les critères. En fait, ce tableau, c'est vraiment un outil de travail, ce tableau que vous avez vu. Par contre, la fiche, le questionnaire, oui, enfin, c'est la base, hein, du contact. Enfin, peut-être que tu pourrais, Emmanuel, mieux en parler que moi. Mais alors du coup, sur l'ensemble des ressources qu'on a examinées, il me semble qu'il y en a une qui a été, effectivement, qui est encore en cours de négociation.
C'est une démarche, c'est les éditeurs qui donc vous leur soumettez le questionnaire, mais ce que je veux dire c'est que est-ce que ça a valeur de négociation dans le sens où se conformeraient davantage à vos critères pour rentrer dans le réseau Carrel?
Oui, alors ça ça a valeur de négociation. Il y a une ressource autour de laquelle on a eu beaucoup d'échanges qui avait des points. Enfin, la ressource est Artips. Il y avait des points très intéressants et puis d'autres nettement moins. Il y a une synthèse, une restitution de l'ensemble de ces analyses. On a beaucoup discuté entre nous aussi par mail et puis on s'est au moment où on s'est retrouvé à la BPI et puis sur la base de cette analyse le bureau de Carrel a entériné le fait que on n'intégrait pas cette ressource sur le catalogue Carrel. Et en même temps, c'était intéressant parce qu'il y avait des échanges. Je me souviens qu'il y avait des points intéressants. C'est une ressource en auto-formation, enfin de culture générale. Donc, il y avait des choses qui étaient très bien faites, assez ludiques, assez interactives, qui plaisaient à certains d'entre nous. Et puis en même temps, le catalogue, les matières, les cours, concours n'était pas encore suffisamment étoffé pour qu'on y consacre le budget qui était proposé. Voilà.
Mais par rapport à cette question, en fait, moi, je ne ressens pas le groupe auto-formation comme un outil de validation. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Ça laisse toute liberté, justement, d'analyse. L'idée, ce n'est pas de couler. C'est plus d'avoir un regard positif et d'aller... par rapport à cette grille qu'on vous a, à ces critères qu'on a mis en évidence, l'idée c'est pas de voir ce qui va pas, c'est plutôt le contraire, de voir ce qui est intéressant, et voilà, on a plutôt cette approche là et moi je trouve que c'est bien que ça soit pas qu'on n'ait pas des critères rédhibitoires, enfin c'est bien qu'il y ait cette validation, ce vote du bureau. Personnellement, moi ça me donne plus de liberté pour analyser les ressources. C'est vraiment un plaisir d'aller tester des ressources et de pouvoir faire un retour sur le ressenti qu'on en a eu et puis l'analyse qu'on peut faire de cette ressource. C'est vrai que c'est un chouette travail.
Ce qui est intéressant aussi dans ce formulaire, ce questionnaire, c'est adressé aux éditeurs, c'est déjà une façon de souligner et de dire aux éditeurs quels sont les besoins des bibliothèques par rapport à la présentation d'Emmanuel qui disait que les éditeurs s'adressaient à des publics qui étaient différents des bibliothèques et qui donc ne connaissaient pas. Et pour certains ne connaissent pas encore le monde des bibliothèques, toutes nos questions permettent aussi, c'est un outil d'échange en fait, hein, permettent aux éditeurs de connaître nos besoins, nos contraintes, etc. Et ça permet, quand dans ce working progress, et ben ça permet c'est des échanges en continu et sur moyen et long terme avec l'éditeur pour que et ça permet aussi à l'éditeur de voir s'il veut évoluer, s'il veut vraiment s'adresser aux bibliothécaires, si les bibliothécaires sont des clients pour lui intéressants et du coup de faire évoluer sa ressource si nécessaire en fonction de ça. Donc oui, cette grille de questions, elle est extrêmement importante. Sur le site de Carrel, vous retrouvez les fiches tarifaires, vous retrouvez la fiche d'évaluation qui reprend ces critères-là et qui nous permettent aussi à nous de s'y retrouver, de pouvoir d'avoir des points de repère pour analyser une ressource et savoir si elle convient à la bibliothèque dans laquelle on travaille, encore une fois, en fonction du public, etc., etc. Oui. On va passer si au...
Non, je réponds pas. Si... Oui, pardon. Oui, par rapport à la réponse, oui, alors la fiche descriptive, elle est vraiment descriptive, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une photo véritablement complète de l'offre de l'éditeur. Et ensuite, il y a plusieurs allers-retours avec l'éditeur. Hein. Il y a quand même des prérequis, c'est-à-dire que si l'éditeur dit non, moi, je ne m'interfacerai jamais avec vos SIGB, bon, bah, on laisse tomber quand même. Hein. Et ensuite, une fois que l'offre elle est avancée, qu'elle est présentable, elle est soumise à l'évaluation du groupe de travail. Et donc là, il y a une deuxième évaluation. Et les évaluations du groupe de travail préparent la décision du bureau et du CA. Et il y a une évaluation aussi par le CA, qui vote ou non l'inscription de la ressource au catalogue. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux de tamis, si vous voulez. Alors oui, mais quand une ressource est retoquée, c'est quand même, faut que ce soit vraiment sur un point très précis, de façon à ce que l'éditeur ait la marge de manœuvre pour progresser et la reproposer de nouveau. Et l'éditeur, parfois, ne peut pas ou ne veut pas faire les développements demandés, et à ce moment-là, la négociation échoue. Voilà.
On va passer à la table ronde, parce qu'on est un peu juste en temps.
Il y avait encore une question. Ce sera la dernière pour qu'on ait le temps après d'avoir des échanges avec les collègues, les autres intervenantes.
Bonjour, Aliénor Carnini, Réseau des médiathèques des Portes de l'Essonne. Je voulais savoir si... si il vous arrivait, alors je sais que vous êtes un petit groupe de travail de 4 personnes, mais est-ce que de temps en temps vous réévaluez, vous revenez sur des ressources numériques, est-ce que vous les réévaluez de façon périodique ou pas, en fonction de ce qu'ils ont rajouté, de ce qui a changé?
Alors, en fait, l'entrée dans le dispositif, c'est Emmanuel. c'est vrai que nous, notre boulot, c'est vraiment de tester des ressources qu'on nous propose. Après, au décours de notre utilisation des ressources, ce qu'on peut avoir comme utilisation, usage dans les bibliothèques, nous, on peut faire remonter sur le portail de Réseau Carrel des remarques. Mais sinon, le réexamen des ressources, c'est Emmanuel qui le décide. Le négociateur, la négociatrice.
Oui, pour rebondir, en fait, je réactive la négociation quand il y a je suis sollicitée par les adhérents, c'est-à-dire par exemple sur le kiosque, hein, quand il y a 5 adhérents qui m'écrivent en même temps, dire quel scandale de ce kiosque, on revoit l'éditeur, on revoit la proposition, moi j'interpelle les groupes de travail, j'interpelle ce CA, on en rediscute en CA, on réévalue. Après, il y a aussi des évaluations des ressources dans le cadre de l'enquête, hein, qui a cours actuellement. Et lorsqu'il y a une augmentation ou un changement total de l'offre, l'offre refait le circuit total. Évaluation du groupe de travail, CA, etc. Mais ça peut être aussi à la demande des adhérents. Voilà. Donc, vous pouvez prendre aussi une part active à l'évaluation des ressources. Et comme le disait Fabien, sur le nouveau site, on veut mettre en avant aussi davantage les commentaires et l'évaluation des ressources par le réseau.